Hey, bienvenue au Boku.
Bienvenue. Welcome.
Bienvenue.
Willkommen.
Moko Panacé.
Radio Moko. Radio Panacé. Radio
Panacé. Venez.
Let's go.
Moko Panacé.
Moko Panacé.
Mais c'est quoi ?
Des jeunes artistes vus par des jeunes artistes.
En devenir.
Un lieu de science transformé en lieu d'art.
Un lieu d'exposition.
Un café-restaurant pour les visiteurs.
Et avec un piano à disposition.
Different spaces, différentes ambiances.
Un patio cosy avec une fontaine.
Et il y a même des logements étudiants.
Et sans oublier le labyrinthe de 12 km pour aller aux toilettes.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui au café du Moko Panacé, dans le cadre de la deuxième édition de la Biennale Art Press, une exposition de jeunes artistes sélectionnés et récemment sortis de grandes écoles d'art. Dans cette émission, vous assisterez à un débat philosophique, des interviews d'artistes et des petits podcasts sur nos ressentis face à quelques-unes des œuvres exposées. Alors, aujourd'hui sur le plateau, nous sommes 9 jeunes en service civique à l'IPEC. Alors Nino, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'IPEC ?
Il s'agit de l'association pour qui nous sommes tous volontaires en service civique depuis 2 semaines. IPEC est une association d'éducation populaire créée il y a 30 ans. Ses actions sont centrées sur le quartier de la Mausson à Montpellier. Elle propose le parcours Art Ensemble en partenariat, entre autres, avec le MOCO. Notre présence avec Wakadi et la Maison des Ados est une étape de ce parcours annuel que nous débutons. Jeanne, que faisons-nous au MOCO Panacé ?
Durant 3 jours, nous avons découvert l'expo de la Panacée avec la médiatrice Agathe, ici présente, qui nous a apporté plus de détails sur les œuvres exposées et les jeunes artistes les ayant faites. Nous avons ensuite travaillé pour créer un podcast à la visée du public du Moko Panacé, dans lequel chacun d'entre nous a parlé de son ressenti face à une œuvre qui l'a marqué. Et enfin, nous avons préparé l'émission de radio en direct d'aujourd'hui. Pour vous donner un avant-goût, voici la capsule auditive introductive.
On est au musée Moko Panacé. C'est la 2e édition de la Biennale Art Place.
Aujourd'hui, au Moko Panacé, découvrez la 2e Biennale Art Press des jeunes artistes.
Hé, nous aussi on est des jeunes artistes.
Carrément. Et d'ailleurs, accompagnés par Wakadi, la Maison des Ados et l'IPEC, on vous propose une expérience artistique auditive.
Prêtez l'oreille,
lâchez les QR codes
et découvrez ce que certaines œuvres ont pu faire vibrer chez nous.
Couleurs pour toutes les couleurs d'émotions.
Expression. Éclectique.
Masculinité exacerbée.
Variée.
Multitude.
Histoire.
Extravagant.
Connaissance.
On est au Moko Panacé.
Et ensuite, pour plus de détails, nous allons écouter Azilis sur son ressenti sur la 2e salle de l'exposition.
Quand je suis rentrée dans la 2e salle, je me suis sentie dans un univers plutôt naturel, avec les chants diffusés d'oiseaux et puis le face-à-face avec la projection de pigeons dès l'entrée. Et puis il y a aussi un côté intime, parce qu'on rentre dans une pièce toute sombre qui fait l'effet de rentrer dans une grotte ou dans un nid avec tous les oiseaux. Mais plus je passe du temps devant chaque œuvre, plus ça m'évoque une nature rangée et ordonnée par des humains. Les pigeons sont tous à la file indienne, avec leurs œufs dans les boîtes, il y a aussi le traducteur de chants d'oiseaux, et puis vous rentrez dans la grotte, il faut enfiler un masque de réalité virtuelle. Moi, ça à quoi ça m'a fait penser, c'est ce rapport qu'on entretient avec la nature. Je me dis qu'on vit au même endroit que des milliards d'autres êtres vivants, mais qu'on connaît pas grand-chose à leur manière de vivre. On dit souvent qu'on va à la campagne dans la nature, trouver du calme et se ressourcer. Mais c'est pas du tout des endroits calmes si on pense que c'est là qu'il y a le plus d'échanges et le plus de diversité entre plein d'espèces. Moi j'ai grandi à la campagne, puis mon rêve c'était d'avoir le super pouvoir de parler avec les animaux. J'étais trop intriguée quand je tombais nez à nez avec une biche ou un renard, de savoir ce que cette rencontre leur provoquait. Si eux aussi, ils étaient émerveillés ou curieux. En grandissant, je me rends compte que le fait qu'on ne parle pas la langue d'autres espèces, bah, ça nous rend moins sensibles. Ça crée un rapport de force où on se sert des êtres vivants comme des moyens. Je pense pas forcément que c'était le propos des artistes dans cette salle, mais à moi, il m'évoque un atelier de scientifiques du futur qui serait de trouver une machine pour avoir le super pouvoir de traducteur.
Voilà, j'espère que cette capsule sonore vous a plu et qu'elle vous a donné envie de venir voir l'exposition. On enchaîne maintenant sur une question philosophique que l'on se pose tous lorsqu'on est face à une œuvre d'art. Faut-il connaître l'artiste pour apprécier son œuvre ? Débat entre Jeanne et Nino.
Faut-il comprendre une œuvre d'art pour l'apprécier ? Avec Nino, on se pose la question. Pour ma part, je pense qu'on peut apprécier une œuvre sans connaître l'intention de l'artiste. On peut apprécier l'œuvre sans comprendre son sens. Face à une œuvre, on a des réactions spontanées qui sont liées à notre sensibilité. En tant que spectateur, on peut apprécier une œuvre sans forcément la comprendre et connaître ses origines ni son sens.
Comment ça ? Enfin, je comprends pas. Tu veux ressentir ?
Par exemple, on apprécie le visuel d'un rendu. Le visuel rendu d'une œuvre, ce qu'elle reflète dans son ensemble. On peut s'attacher à sa superficialité sans comprendre le sens, sans déterminer ce qu'elle veut dire, mais sans pour autant être ignorant au sujet de l'art.
Je comprends ton point de vue, mais moi je pense qu'il est important de connaître le message de l'artiste pour apprécier l'œuvre, au moins la comprendre, parce que de nos jours, on a quand même beaucoup d'artistes qui font un art conscient, qui dénoncent sur la société, sur le monde moderne. Donc comment on peut vraiment apprécier l'œuvre si on n'a pas ce message derrière ?
C'est vrai que c'est intéressant de savoir les intentions de l'artiste, mais j'ai l'impression que quand même des fois, quand on connaît l'intention, on sort de son ressenti personnel. Et je pense qu'il y a une histoire de mystère derrière une œuvre qui est intéressante parce que ça attise la curiosité et ça nous donne à essayer d'imaginer ce qu'a voulu dire l'artiste.
Oui, je comprends, mais on a quand même des œuvres qui peuvent, quand le visiteur les voit sans le message, qui peuvent être dégoûtées, répugnées par l'œuvre. Par exemple, pas que ce soit le cas, mais dans la première salle ici à l'Expo, on a une œuvre qui s'appelle Charogne, avec composée de laine de mouton recouverte de verre bombé. Sans le message, on peut absolument pas comprendre l'œuvre.
Oui, c'est vrai que si on n'a pas toutes les clés pour comprendre une œuvre, c'est plus compliqué de pouvoir l'apprécier. Mais des fois, je trouve que ce qui est très important en tant que spectateur, c'est qu'on interprète une œuvre en fonction de sa propre perception de la réalité. Et la création de l'artiste, elle peut faire écho à notre vécu, à nos souvenirs, à nos émotions en tant que spectateur. Et je pense que c'est cette liberté de lecture qui est intéressante et qui laisse libre cours à notre imagination. Nous accueillons Agathe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. qui est médiatrice au MOCO, à la Panacée. On voulait avoir votre point de vue.
Très bien. Donc effectivement, je travaille pour le service des publics du MOCO. Donc je vais vous apporter un petit peu mon point de vue personnel sur la question. Alors je suis désolée, mais il va être un petit peu mitigé. Hein. Je suis ni oui ni non. Alors effectivement, pour moi, la médiation a évidemment un rôle très important, puisqu'on transmet, on est l'interface entre le public et les œuvres. On leur donne surtout, on vous donne des clés de lecture pour essayer de comprendre un petit peu certaines œuvres et le travail des artistes. Donc en ce sens-là, c'est vrai que pour beaucoup de visiteurs, c'est important de nous avoir justement dans les salles pour pouvoir répondre à des questions ou donner justement ces fameuses clés de lecture. Mais aussi, la médiation, en tout cas pour moi, une partie de la médiation, c'est aussi d'encourager les gens à avoir on a un dialogue avec eux, en fait. Clairement, quand on fait des visites, par exemple, quand j'en fais, je pose toujours la question, avant de parler des œuvres, je demande, d'ailleurs, je l'ai fait avec vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous interprétez l'œuvre. Pour nous, en tant que médiateurs, c'est hyper important de vous encourager à regarder l'œuvre et la ressentir aussi, avoir cette rencontre avec l'œuvre. Donc c'est un petit peu les deux pour moi. À la fois, je pense qu'on a un rôle important et un rôle clé à avoir dans les espaces d'art contemporain. Et en même temps, une des missions qu'on a, c'est aussi d'encourager les gens à aller vers les œuvres et justement à aller les rencontrer par eux-mêmes.
Merci Agathe, merci beaucoup. de nous avoir fait part de ta vision.
Panacée. P.
A.
N.
A.
C.
E.
E.
P.
Peinture.
Politisch.
Passion.
Partage.
Peuple.
Parcours.
A. Aventure.
Art.
Artistique.
Artiste. Artificiel.
Autre.
Accompagnement.
Abstrait. N. Naturel.
Neugierde.
Ça veut dire curiosité.
Numérique.
Nudité.
Nouveau regard.
A.
Animation.
Active.
Atelier.
Aquarelle.
Accueil.
Panacée.
C.
Chaleureux.
Connaissance.
Cheminée.
ER.
Couleur.
Curiosité.
Créatif.
Culture.
Chercheur.
Et.
Écho.
Éclat.
Éducatif.
Éveillé.
Étude.
Émouvante.
Éloquent.
Élémentaire. C'est élémentaire.
E.
Envie.
Équilibre.
Évasion.
Engagé.
Expérience.
Experiences.
Et pourquoi pas? Nous allons maintenant commencer les interviews. Notre première invitée est curatrice et a participé à la création de l'exposition. Ramouna Boutayeb, bonjour. Interview menée par Aziliz et Raphaël.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Ramouna. Est-ce qu'on peut se tutoyer?
Si vous le souhaitez.
Avec plaisir. Alors, premièrement, qu'est-ce que tu peux nous décrire sur le métier de curatrice?
Alors déjà, merci pour l'invitation et de me recevoir sur votre plateau radio. Qu'est-ce que je peux décrire? Est-ce que vous avez peut-être une question plus précise?
En quoi ça consiste pour les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas du tout ce métier?
Alors, notre métier consiste en beaucoup de choses. Mais tout d'abord, c'est en tout cas au sein du MOCO, c'est de travailler à toute l'organisation et autour de la programmation des expositions. Les expositions, on va les concevoir et les réaliser de A à Z avec différentes étapes. Ça peut aller démarrer par un travail de recherche. On va définir des thématiques, des axes de travail, donc soit focaliser le travail autour d'un seul artiste ou parfois dans le cadre d'expositions collectives. Peut-être sur la Biennale Presse, je ne parlerai pas au nom des commissaires, parce qu'il y avait des commissaires invités, donc extérieurs, au MOCO, qui ont fait la proposition, la sélection d'œuvres, la sélection des artistes qui s'est faite en collaboration avec un jury. Et à partir donc de ce travail de recherche, on va entamer en fait un travail de construction de l'exposition et de la narration qu'on voudra construire au long d'un parcours dans les espaces d'exposition, soit du MOCO Panacée, soit du MOCO, pour ensuite livrer l'exposition au public.
Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a donné envie de faire ça?
J'ai un parcours plutôt, on va dire, classique. Après l'obtention d'un bac littéraire, j'ai choisi de faire des études en histoire de l'art et de me spécialiser plus particulièrement en art contemporain. Donc j'ai fait un master qui m'a permis d'approfondir mes connaissances et mes recherches, en tout cas sur le plan théorique, en étudiant quand même toute l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours, mais en affinant et en focalisant pour se spécialiser sur cette discipline-là.
Ok.
Ça fait combien de temps que tu travailles ici?
Ça fait 4 ans.
Est-ce que tu as déjà été dans d'autres lieux comme ce musée avant?
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler pour d'autres structures et institutions, notamment de centres d'art et musées. Et j'ai aussi longtemps travaillé dans le milieu associatif au sein d'une association que j'avais cofondée pendant une dizaine d'années.
Nous, ce qu'on se demandait aussi, c'est quelle est la part artistique du métier de curatrice?
Alors, il y a plein de façons d'être curatrice ou curateur ou de faire le commissariat d'une exposition. C'est des choses qui font aussi débat et parfois c'est des postures. Ça peut être considéré aussi comme étant auteur et d'avoir un geste artistique. C'est-à-dire que être auteur d'une exposition, ça veut dire qu'on en devient quelque part aussi, en fait, on considère que ça peut faire œuvre. Et ça peut être en parallèle une autre démarche aussi, d'aborder l'exposition plus d'un point de vue, en fait, on va dire avec un regard curatorial, mais en laissant la place aux artistes, puisque c'est leur travail qui fait œuvre et pas l'exposition. Mais ça, c'est des points de vue et des débats et des choses qu'on pourra développer plus longuement à une autre occasion.
Est-ce qu'il y a des œuvres ou des illustrations qui t'ont posé plus de problèmes que d'autres ?
Pour cette exposition-là ou de façon générale dans mon parcours ?
De façon générale et pour cette exposition.
Après, j'ai eu différentes expériences professionnelles. Hein. Je n'ai pas toujours fait du commissariat. J'ai aussi eu un parcours en médiation. Et il y a une œuvre assez atypique que beaucoup de gens dans le milieu de l'art ont pu être amenés à rencontrer et à devoir accompagner. C'est une œuvre qui s'appelait Cloaca et qui était une machine qui produisait du caca et qu'il fallait quotidiennement entretenir, nourrir et chérir. Et donc c'est vrai que c'est assez insolite. Que ce soit du point de vue de la structure des équipes techniques, des équipes de médiation, des commissaires aussi, de faire le choix d'exposer ces œuvres-là et de devoir aussi se coller à un protocole assez complexe, défini par un artiste qui finalement nous avilie à une machine. Et je ne rentrerai pas après dans les détails.
C'est bien dommage.
Et on se demandait comment tu travailles avec le service civique pour le service technique pardon pour les œuvres contraignantes.
En fait, dans le cadre de la préparation des expositions, on est aussi en contact avec les artistes, parfois aussi avec ce qu'on appelle les studios d'artistes, parce que parfois ils peuvent avoir des assistants. Et en fonction de la complexité des œuvres, en fait, on se met en relation très rapidement avec eux pour essayer de penser et accueillir au mieux, en fait, l'œuvre avec toutes les contraintes qu'elle peut présenter ou les difficultés techniques ou l'expertise qu'elle peut demander. Et du coup, dès le départ, en fait, avec l'équipe technique, ils sont informés. Donc, sans caricaturer, voilà, si c'est un dessin encadré ou une peinture, donc techniquement, bon, elle est accrochée au mur, mais il n'y a pas de complexité en particulier. Encore que, si c'est un très très grand format et qu'il arrive en dehors de son châssis, qu'il faut le réaccrocher, donc c'est des choses à savoir. Après, dès que ça fait appel aussi à de la technologie, notamment, pas que, mais quand même assez souvent. Très rapidement, en fait, il faut pouvoir prendre en main le projet bien en amont pour pouvoir surmonter toutes les complexités au moment de l'installation.
Ok, et merci beaucoup pour toutes tes réponses, en tout cas c'était super intéressant.
De rien, merci de l'invitation.
Expression. Expression.
Extravagant.
Masculinité exacerbée.
Variée.
Couleur pour toutes les couleurs d'émotions.
Multitude.
Histoire.
Connaissance.
Éclectique.
Nous continuons maintenant sur la partie interview d'artistes. Mais avant la première interview, nous allons écouter le podcast de Salomé sur ses réactions face aux œuvres de Louise Margot de Combas. Œuvre nommée « Besan nommé au travers » et « Un peu usé pour le cœur ».
Toutes les choses que cet abribus a vu passer. Ça m'évoque celui qui était en bas d'où l'on vivait avec ma famille. Ses écoliers pressés et enjoués de raconter leur dernier ragot. C'est fou le nombre de personnes qui défilent chaque jour dans cet abribus, surtout quand on sait qu'à ces heures les plus sombres, ils se confrontent à leur propre solitude. Ce sol damier qui me rappelle mes propres baskets que je me suis promise de porter tout au long de ma vie. Il me rappelle ces soirées d'été où l'on finissait à quelques rescapés et qui nous faisaient nous sentir hors du temps. Hors du temps. Et il y a cette lumière, pleine de vie, qui ne peut m'empêcher de me donner la bougeotte. accompagnée de cette musique bien marquée et qui reste gravée dans les esprits. Par ses couleurs et ses matériaux, ça me fait penser aux produits Barbie que toutes les fillettes rêvaient de s'arracher. L'abribus ou la boîte de nuit, c'est dingue toute la nostalgie que me procure cette installation. Quoi qu'il en soit, c'est un rêve figé dans le temps, brut, qui nous voit toutes et tous grandir et évoluer.
Magnifique, merci beaucoup Salomé. On a eu la chance de rencontrer l'artiste pour un interview très intéressant, une personne très souriante et agréable. On a voulu savoir en premier lieu comment elle s'est sentie au Mokopanacé.
C'est super parce que pour le coup, pour moi, là, c'est la première fois que je monte mon travail, on va dire, dans une institution aussi grosse et dans une exposition qui est aussi large, où aussi il y a des moyens qui sont mis, autant en tant que personne qui travaille, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là pour nous aider à monter l'exposition, à installer nos pièces, etc. Donc ça c'est super agréable, et c'est aussi hyper touchant de travailler avec des gens qui prennent aussi soin de ce qu'on fait, etc. Et c'est des conditions, enfin pour moi c'est l'exposition que j'ai faite qui a les meilleures conditions d'exposition pour mon travail, et ça c'est super.
Quels sont les éléments déclencheurs pour la création de vos œuvres ?
C'est beaucoup une observation des territoires. Après, moi, je m'intéresse beaucoup aux territoires qui sont, on va dire, des territoires entre deux, un peu. C'est des interstices qui se trouvent entre la ville et la campagne, qui sont les quartiers résidentiels, les terminus de lignes de bus, les zones un peu décentrées, enfin, par rapport au centre-ville, etc. Du coup, il y a vraiment tout un temps justement d'exploration où c'est là où je prends beaucoup de photographies, beaucoup de notes. Et en fait, c'est quand je retrouve des formes que je retrouve à plusieurs endroits. Bah, par exemple, cet abribus que j'ai retrouvé dans plein de villages en France, même la sculpture du balcon, pareil, que j'ai retrouvé dans beaucoup de stations balnéaires à différents endroits. Et ces éléments-là, pardon, viennent faire symbole presque. Et du coup, c'est à ce moment-là, une fois que j'ai vu des choses en répétition, que je décide de m'en saisir, quoi.
Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie dans vos œuvres ?
Bah, plus de la mélancolie que de la nostalgie, parce que la nostalgie, il y a un côté un peu c'était mieux avant, et ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais ouais, il y a un rapport à la mélancolie qui habite aussi beaucoup ces espaces-là, que sont les stations balnéaires, par exemple. Il n'y a rien de plus mélancolique qu'une station balnéaire hors saison, ou justement ces quartiers résidentiels qui sont souvent des lieux qui sont assez dépeuplés, où il y a peu de commerce et peu de... Après, moi, j'ai grandi aussi dans ces espaces-là où, en fait, il y a aussi beaucoup un rapport à l'adolescence où on attend, quoi, à la sortie des collèges, des lycées, où on attend son bus, Et il y a vraiment un rapport à l'attente et presque à l'ennui, quoi. Enfin, que ce soit l'abribus ou le balcon, c'est aussi des espaces où, en fait, on passe beaucoup de temps à attendre, quoi. Mais c'est aussi des espaces... Par exemple, l'abribus, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est... Justement, dans ce rapport à l'adolescence, c'est aussi un lieu vraiment de sociabilisation adolescente où on traîne avec ses amis, où on embrasse pour la première fois, souvent, et où il y a des temps longs comme ça, ce qui se passe, et c'est aussi des lieux de réunion, en fait, dans les petites villes ou dans les villages. Les abribus abandonnés deviennent des lieux, en fait, où on traîne adolescents, et du coup, ces espaces-là me touchent assez, quoi.
Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions, et on a hâte, je pense, tous de voir tes futures œuvres dans de nouveaux espaces d'exposition.
Merci, merci pour vos questions et pour votre attention.
Merci beaucoup. On est en Mokopanacé. Et finalement, un autre artiste de la Biennale nous fait l'honneur de sa présence. Sam Krak, bonjour. Interview menée par Justus et Salomé.
Bonjour à toi, merci d'être parmi nous. Alors déjà pour commencer, une petite question. Qu'est-ce que ça te fait d'être exposée à la Panacé, sachant que tu es quand même un artiste local ?
Bonjour, merci pour l'invitation. Et moi, ça me fait plaisir parce que aussi, au-delà d'avoir été étudiant à Montpellier, j'ai aussi travaillé dans l'équipe technique ici. Enfin, j'ai installé les expos des autres, donc c'était rigolo de faire accrocher mes anciens collègues des tableaux, enfin, de changer de côté.
Okay.
Pourquoi représenter des rideaux ? Pourquoi des rideaux ? C'était un peu dans la lignée des... Enfin, c'est au-delà du rideau, c'est aussi ce qui est sur le rideau qui importe. Et c'était un peu dans la suite des recherches que j'étais en train de faire dans mon travail.
Et du coup, est-ce que ça soulève un petit peu des questions politiques ?
Je pense que ça peut être politique. Enfin, il y a une question politique qui peut se cacher derrière une apparente banalité. Si on s'y intéresse de près, ça peut soulever des questions bien plus profondes, je pense. Par exemple, l'autre série, une autre série de peintures que j'avais faite, c'était en fait des peintures d'après des photos de mon état des lieux, de l'appartement que je louais quand j'étais étudiant à Montpellier. Et donc pareil, c'est très banal en apparence, mais derrière, c'est un acte juridique qui est imposé par la loi, donc c'est aussi une condition de pouvoir habiter aujourd'hui. Donc il y a plusieurs strates de lecture possibles.
Est-ce que dans ton travail, il y a toujours une démarche dans la récupération ?
Pas forcément. Enfin, c'est plus de l'image récupérée, oui. Enfin, je travaille toujours d'après photo, mais je suis jamais l'auteur des photos. Donc, c'est de la récupération d'images. Après, en termes de matériel qui va me servir à donner corps à ces photos-là, c'est la récup. Mais il m'arrive d'acheter du lin et de faire des châssis neufs.
Est-ce que tu as d'autres expositions qui sont actuellement en cours ou de prévues un petit peu ?
Bah oui, justement la série qui s'appelle Artemis, qui est du coup d'après l'état des lieux, elle est exposée à Toulouse au lieu commun, qui est un super chouette endroit, et c'est jusqu'au 10 novembre, je crois. Okay. Encore une semaine.
Travailles-tu sur d'autres collections thématiques ?
D'autres que quoi ?
D'autres collections thématiques un petit peu. Là, par exemple, ça évoque un petit peu les rideaux. Là, dans la collection actuelle, à la Panacée, il y avait aussi, comme tu nous as dit, ton état des lieux. Mmh. Mais est-ce que, par exemple, tu travailles un petit peu sur d'autres choses, autre que, par exemple, du mobilier ou...
Je pense que je travaille toujours un peu sur une sorte de banalité, quelque chose de l'ordinaire, des... micro-événements de la vie quotidienne de tout le monde, et après il y a différentes manières de leur donner corps. Ça peut être du volume, de la peinture, ça dépend.
Est-ce que la peinture à l'huile, là par exemple sur cette exposition tu as fait de l'huile sur rideau, et la peinture à l'huile c'est vraiment ton seul matériau pour exprimer ton art, ou tu utilises autre chose ?
Non, justement j'ai commencé à peindre assez tardivement, même après les Beaux-Arts quasiment. Et là, c'était juste par rapport à... J'aimais bien en fait, la peinture à l'huile, c'est très long à sécher, enfin, ça, c'est assez... J'aimais bien ça appartient à une autre temporalité, c'est très... par rapport à la trivialité, à la rapidité des prises de vue des photos, j'aimais bien introduire cette espèce de lenteur où je passe... beaucoup de temps à reproduire ces images qui sont en fait de manière très rapide.
Ok. Et aussi j'avais une autre question, c'est concernant en fait, là par exemple tu as voulu jouer un petit peu sur la mise en abîme au final, en récupérant ces rideaux, les greffant et au final repeignant ces mêmes rideaux. Est-ce que c'est assez récurrent dans ton travail ? Tu as bien travaillé un petit peu sur cet effet-là ou tu es vraiment sur d'autres choses un petit peu ?
J'aime bien ce côté mise en abîme, comme tu dis. Après, comme par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure, la peinture, c'est aussi, justement, je pense qu'elle a cette capacité d'être autonome dans un certain sens. Elle peut être juste, en voyant l'image, ça peut... les gens, ils peuvent se raconter des histoires. Et puis, moi, j'aime bien que ça se passe en deux temps, quand d'abord on voit la peinture... ça nous parle d'une manière ou d'une autre. C'est un peu une imagerie un peu familière. Tout le monde est déjà allé sur le bon coin, chercher des trucs, ça nous parle. Et dans un deuxième temps, je pense que si on est curieux, on peut reconstituer tout ce processus qui est celui d'acheter le rideau de la photo, de le réutiliser pour peindre dessus sa propre image. Enfin, que cette découverte se fasse vraiment en deux temps, soit par un regard qui cherche à recomposer ce processus, soit par justement la médiation qui donne des clés de lecture pour expliquer un peu mieux de quoi il s'agit.
Dernière question pour la route. Es-tu Anna des tielles sétoises?
Si j'aime bien les tielles, j'y travaille. Pour me faire respecter, je suis obligé d'aimer un minimum. Mais de base, c'est pas quelque chose que j'adore, mais.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce partage un petit peu d'expérience et d'avoir pu faire profiter les auditeurs au final de ce partage et de ton art, quoi.
Merci à vous.
Merci.
Et c'est désormais la fin de ce live. Vous avez passé un bon moment d'art et de philosophie. Merci à tous et à toutes.
Je crois que c'est l'heure de dire merci à tout le monde. Alors, merci au Moco Panacé, merci au restaurant et au bar de nous avoir laissé la place. Merci à Agathe pour cette très belle présentation et merci à tous les artistes.
Et merci aussi à la curatrice Ramouna Boutaïeb. Et on voulait remercier aussi l'équipe de Wakadi, à Jean-Jacques et Fanny pour cette initiation à la radio et à la Maison des Adolescents.
Et on remercie également l'IPEC et cette association, surtout à Karine qui nous accompagne avec passion en fait dans ce projet. Et un gros big up au final à toute l'équipe de Art Ensemble et encore plus à Viola et Zawad qui n'ont pas pu être là mais qu'on embrasse très fort. Donc big up à nous, donc big up à Lucille, Raphaël, Nino, Jeanne, Justus, Azilis et moi-même, Salomé du coup.
Thank you for listening. We hope you enjoyed our podcast. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.